On accueille maintenant Marie au 3921. Bonsoir Marie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Marie. D'où nous appelez-vous, oui, Marie ?
Je vous appelle de Paris pour répondre aux questions que vous posez habituellement. J'ai 72 ans, même si je n'aime pas trop le dire.
Non, mais je ne vous avais rien demandé.
Avec 30 ou 40 ans dans la tête, voilà. Et en fait, je vous félicite pour toute l'énergie que vous déployez. Il y a eu, tout de suite, il y a eu Mohamed. Et j'espère qu'il va récupérer ses dents et va être comblé en pouvant croquer une pomme ou un abricot qui est un peu plus mou.
Un abricot, c'est mieux.
Un abricot, on est d'accord. Et puis, il y a eu une autre Marie, la première, avec laquelle je compatis beaucoup. Peut-être qu'elle nous écoute encore. Et je voulais lui dire qu'il y a toujours, il y aura toujours une solution. C'est ce que vous avez cherché, du reste, à lui dire. Vous avez fait preuve de bienveillance, vous avez essayé de trouver des solutions. Et apparemment, il y a des personnes qui ont répondu.
Oui, il y a des dizaines de personnes qui ont répondu, qui se sont proposées d'aider Marie. Donc, on va faire le nécessaire pour... faire en sorte que donc tout le monde, enfin pas tout le monde, hein, puisqu'elle ne va pas avoir besoin de tout le monde, mais en tout cas qu'il y ait quelqu'un sur Alençon qui puisse se déplacer et qu'il puisse faire toutes les démarches pour elle, parce que vous l'avez compris, c'est compliqué, elle ne voit rien donc, et elle ne peut pas se lever. Donc c'est... Voilà, mais ça va s'arranger. J'en profite pour remercier au 73921 les sœurs jumelles qui nous ont écrit un très gentil message tout à l'heure, que je n'avais pas remercié, Hélène et Delphine, et puis préciser à Aurore que j'ai repris le sport depuis un bon moment, donc tout est en bonne voie. Voilà, c'est un petit message. Je vous écoute, Marie.
Voilà, alors donc moi c'était un petit peu pour témoigner de quelque chose que je fais, et je pensais à cela en fait hier soir en écoutant Karine, qui peut-être nous écoute aujourd'hui.
Il y a de grandes chances.
J'ai trouvé que cette jeune femme, parce que bon, elle n'a pas 50 ans, donc on va dire comme ça, pour moi c'est encore une jeune femme, elle a plein de possibilités devant elle, elle a plein de choses encore à faire, et là elle souffre de dépression apparemment. Et je me disais, je trouve en l'écoutant qu'elle avait des atouts, qu'elle avait quelque chose à donner, et donc qu'elle aurait pu faire un bénévolat. Et bon, je témoigne un petit peu ce soir de mon bénévolat, qui est un bénévolat en soins palliatifs. Donc je m'occupe des personnes en fin de vie. Et ce n'est pas forcément cela qu'elle peut faire, mais il y a plein de bénévolats différents qui apportent beaucoup de choses. Et je dois dire que moi, ça m'apporte beaucoup et que je trouve ça formidable de pouvoir se donner, de donner son temps aux autres. Moi, je l'ai fait assez jeune, donc je travaillais, j'avais mes trois enfants, mais je le faisais le soir. Mais bon, après, il y a d'autres bénévolats. On peut aller justement, je pensais à cette Marie, pourquoi pas lancer ou voir par la mairie s'il n'y a pas des bénévoles qui peuvent se déplacer pour aller l'aider à traverser la rue, aller se promener, à faire quelque chose, parce qu'il y a, des dizaines de sortes de bénévolats différents. Donc, je dirais, chacun son truc.
Complètement, vous avez raison. Bon, parfois... vous le savez, Marie, le bénévolat est quelque chose qui ne branche pas certaines personnes et qui éprouve une certaine peur à aller aborder comme ça des gens dans une association. J'ai plusieurs fois eu des personnes qui avaient peur, que je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'était par timidité. On a souvent conseillé sur cette antenne. Oui. Le bénévolat, parce que c'est vrai que c'est une occasion de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir recréer un réseau de connaissances.
Un réseau de connaissances, un lien, des liens.
Pourquoi avez-vous décidé, vous, Marie, de vous lancer dans...
Alors, au départ, ma mère a été malade pendant très longtemps et en fait, je n'ai pas pu vraiment l'accompagner comme je souhaitais jusqu'à la fin. Je n'ai pas été là pour ces derniers instants. Je ne m'en suis pas voulu parce que je ne pouvais pas y être. Et du coup, je me suis dit, c'est quelque chose que je pourrais faire après. Et après réflexion, au bout de 3 ans, une amie m'a parlé une fois de ce genre de choses. Donc, qu'elle était elle-même dans une unité de soins palliatifs, mais qu'elle allait la quitter parce que c'était pas son truc, entre guillemets, et qu'elle se voyait plutôt faisant ça auprès dans les EHPAD. Et puis, tiens, moi, chez moi, ça a fait pif. Et je me suis dit, ben, moi, ce serait plutôt le genre de choses que j'aimerais et pas forcément aller dans une maison de retraite. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, Marie ?
Ah ben, ça apporte plein de cadeaux, je dirais. Ça apporte plein de cadeaux dans la tête. Hein. Pas des cadeaux physiques, évidemment, parce qu'on n'a pas le droit de les recevoir, mais des cadeaux... Les cadeaux, parce qu'on sait qu'on est là au bon moment, on a une devise, c'est accompagner ici et maintenant, et donc on est juste là quand il faut, si vous voulez. Donc en écoutant la personne, comme vous le faites tous les soirs, donc déjà ça permet un échange, on écoute, on n'interrompt pas, on laisse la personne s'exprimer, et en fait, ces malades, quelquefois, ils s'expriment auprès de nous, choses qu'ils ne font pas forcément auprès de leur famille proche, je dirais. Parce qu'il y a des choses, je dirais, en fin de vie ou pas tout à fait en fin de vie, mais presque, et bien qu'on n'a pas envie de dire aux autres, enfin de dire à sa famille, et que la personne, la bénévole, le bénévole qui est là, ben, peut le recevoir au moment où il passe, parce que c'est lui, et qu'après on ne le reverra plus, ou on le reverra aussi. Tout est différent. Mmh. Et puis, je trouve que de voir ce lieu qui est plein de vie jusqu'à la fin est merveilleux, est merveilleux. Il y a des personnes qui arrivent dans cette maison et qui demandent l'euthanasie. Et après avoir vécu quelque temps au sein de la maison, ne la réclament plus et se disent, bon, bah, tout est beau, tout est bien, c'est une résidence 5 étoiles, voilà, les soignants sont au top, et voilà, et du coup, ils revivent.
Ça fait partie, comme vous l'avez dit, ça fait partie du processus d'entraide. L'écoute est très importante. Souvent, on perd cette notion que lorsque quelqu'un est en train de parler, il a envie d'aller au bout de son idée. Et on est dans une époque où on se sent obligé d'intervenir.
Absolument.
Et bon, c'est je ne sais pas, une question. C'est quoi, à votre avis, ce besoin d'intervenir en permanence, Marie, à votre avis ?
C'est-à-dire un mot, je ne sais pas, c'est de la puissance, non ? Une certaine puissance qu'on veut mettre, ben, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Non, je vous posais la question comme ça.
Je ne veux pas forcément juger, mais c'est vrai. Alors qu'il faut écouter l'autre jusqu'au bout. Il a tant de choses à dire et que c'est malheureux de ne pas l'entendre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se raconter. Et je pense, par exemple, à cette Marie, la première Marie qui est intervenue, puisque moi je suis la seconde, elle aurait besoin de se raconter, ben, effectivement, le deuil de ses yeux, le deuil de son audition. Ce sont tous des petits deuils et des gros deuils même.
Complètement.
Le deuil d'équilibre et tout. Et donc ça, ben, ça lui ferait un bien fou. Et là, il n'y a pas besoin même d'être... Il n'y a pas besoin de faire partie d'une association, mais aller à la rencontre de personnes qui sont pas bien. Donc on peut demander par l'intermédiaire, ou je ne sais pas, de la mairie, s'il n'y a pas des personnes malades qui souhaitent être visitées, tout simplement, parce que ça ferait du bien d'être écouté. Et puis ça fait du bien à l'un et à l'autre. Et là, c'est le cadeau réciproque. Moi, je vois dans cette maison, il y a des personnes qui sont arrivées, qui étaient dans un état, je dirais, de mental et physique... pas en bon état, et qui se sont requinquées parce qu'elles ont senti autour d'elles toute cette ambiance de bienveillance, tous ces bénévoles qui gravitaient, les soignants qui étaient sympathiques, bienveillants, Et ils se sont requinqués. Et je vois, on accompagnait, moi j'ai accompagné une dame pendant longtemps, et qui réclamait sa petite tisane le soir, mais dans la journée, c'était aussi, il y avait un petit verre de vin, et puis même la petite bouteille, et puis après, il y avait les cigarettes, et puis voilà. Et donc, on a pu le faire jusqu'au bout, alors qu'il y a eu une de ses amies qui demandait l'euthanasie pour elle. Et elle n'en voulait pas. J'ai dit, allez demander à votre amie si elle en veut. Ben non, la patiente qui était là, elle ne voulait plus d'euthanasie parce qu'elle était accompagnée, elle était écoutée et elle a pu vivre jusqu'à ses derniers instants, jusqu'au bout.
Et c'est souvent par là que ça passe, Marie, vous avez raison de souligner ça. Ça passe par la chaleur humaine, ça passe par une attention, ça passe par... ce sentiment la réalisation que tout à coup, eh bien, on n'est pas seul. On a quelqu'un en face qui est en train d'écouter, qui s'intéresse à ce qu'on est en train de dire et qui accroche à notre façon de penser. Et puis, quelque chose peut démarrer de tout ça et redonner vie. Merci Marie, en tout cas, pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci et je vous embrasse bien fort.
C'est gentil, merci aussi à vous. Au revoir Olivier.
À bientôt Marie, au revoir.